Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Où achèterons-nous des pains pour leur donner à manger ? Mes très chers frères, en ce dimanche de l'Étaré, quatrième dimanche de Carême, l'Église nous montre notre Seigneur soumettant ses disciples à une épreuve particulière qui a pour but de fortifier leur foi. Et comme nous sommes les enfants de ses disciples, nous sommes les disciples des disciples, nous sommes nous aussi, malgré notre indignité, les disciples de notre Seigneur, eh bien c'est aussi à nous que cette épreuve s'adresse, de telle sorte que nous puissions, en comprenant l'épreuve que les disciples ont subie, eh bien voir, avec l'aide de Dieu, notre foi augmenter. Nous avons plusieurs choses à voir, spécialement et essentiellement dans l'évangile d'aujourd'hui. Nous, dans un premier point, nous parlerons de l'épreuve à laquelle les disciples sont soumis. Nous verrons que saint Philippe et saint André ont eu une bonne attitude et nous en tirerons quelques règles pour procéder en tant que chrétiens quand nous sommes dans le besoin. Deuxièmement, dans un deuxième point, nous parlerons de l'exaucement divin. Nous verrons comment aussi nous y disposer. Nous verrons, nous dirons un mot du rôle des pasteurs et nous parlerons aussi de la nécessaire vigilance que nous devons apporter pour être exaucés par notre Seigneur. Et ensuite, nous terminerons brièvement par un troisième point où nous dirons un mot de comment se comporter après avoir été exaucés et quelques erreurs à ne pas commettre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Écoutez à nouveau ce que nous avons entendu dans l'Évangile. En ce temps-là, Jésus s'en alla au-delà de la mer de Galilée, c'est-à-dire la mer mer de Tibériade, et une multitude nombreuse le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Mes très chers frères, disons-le directement, et abstraction faite des gens qui suivaient notre Seigneur pour les bonnes raisons, comme les disciples et plein d'autres personnes encore, mais parmi ces gens, parmi ces grandes foules, eh bien, beaucoup ne suivaient notre Seigneur que pour les miracles qu'il voyait faire, que pour les avantages matériels de sa présence. Il est dit, une multitude nombreuse le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Alors, ce n'est pas une faute en soi que de suivre notre Seigneur en voyant les miracles, car les miracles de notre Seigneur sont donnés afin que notre foi comprenne qu'il s'agit ici du Messie. C'est pour cela que le Messie avait été prédit, les prophètes avaient prédit que le Messie ferait beaucoup de miracles quant à la guérison des malades, etc., et chasser les démons. Et il se trouve que c'est ce qu'il faisait. Donc, il était d'une certaine manière normal que les Juifs le suivissent, parce qu'il voyait en lui la réalisation des promesses, des prophéties, des prophètes. Maintenant, il se trouve qu'il le voyait aussi parce qu'il faisait des miracles qui leur servaient à quelque chose. Le miracle sert toujours à quelque chose. La seule chose, mes très chers frères, nous allons voir qu'il y a une manière et une autre manière de suivre notre Seigneur. Ces gens-là poursuivaient d'une certaine manière leur intérêt, même si l'Évangile ne fait que passer sur le fait que leur adhésion à notre Seigneur, au moins dans cette occasion-là, était relativement intéressée. Et pourtant, notre Seigneur, nous le voyons dans l'Évangile, notre Seigneur les nourrit. Il les nourrit pourquoi ? Il les nourrit parce qu'il a pitié d'eux. Il les nourrit parce que dans un autre Évangile, nous apprenons qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là et qui écoutaient sa doctrine. Il les nourrit aussi pour donner une instruction à ses disciples. Il voit donc, ayant levé les yeux et voyant qu'une très grande multitude venait à lui, notre Seigneur dit à Philippe, saint Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour leur donner à manger ?» Évidemment, les commentateurs nous disent que nous ne devons pas nous imaginer un seul instant que notre Seigneur posait cette question par perplexité, puisque immédiatement après, l'évangéliste dit « il disait cela pour l'éprouver, car lui, il savait ce qu'il allait faire ». Si des fois nous avions douté, nous avions pu douter de que notre Seigneur sait exactement ce qu'il doit faire, l'évangéliste est là pour nous le rappeler. Néanmoins, il interroge ses apôtres, et c'est pour les éprouver. hoc, ceci, autem, or, ceci, dicebat tentans eum. Or, ceci, il le disait en le tentant. Il est une chose remarquable, soit dit en passant, mes très chers frères, que le carême commence par le récit de la tentation de notre Seigneur, où le diable a soumis notre Seigneur à une tentation extrême, dont il est sorti victorieux. Et en ce jour, en ce milieu de carême, en cette quatrième dimanche de carême, où nous nous réjouissons du fait d'avoir progressé jusque-là, d'avoir persévéré jusqu'ici, et où nous prenons quelques forces pour continuer jusqu'à la Semaine Sainte, eh bien, nous voyons à la mi-carême, nous voyons notre Seigneur tenter lui-même ses disciples. Mais les commentateurs nous disent, le diable tente pour faire perdre la foi, notre Seigneur tente, c'est-à-dire éprouve, pour fortifier la foi. Où achèterons-nous des pains ? Il posait une question, cette question, pour enseigner à ses disciples que les pasteurs qu'ils étaient devaient avoir une très grande sollicitude pour les pauvres dans l'Église. Et c'est pour cela que nous voyons dans les premières semaines, les premiers mois de l'année de l'Église de Jérusalem, les apôtres servir aux tables. Et ensuite, comme ils devaient aussi, par ailleurs, parce que c'était aussi leur mission, ils devaient aussi enseigner et aller prêcher aux Juifs, aux Samaritains et aux païens, ils ont institué les diacres afin que les diacres accomplissent à la place des apôtres le service des tables, le service des pauvres, sachant que celui-ci est d'institution divine puisque c'est notre Seigneur lui-même qui a montré l'exemple en nourrissant les pauvres dans le désert. Donc voilà pour un premier enseignement. Néanmoins, notre Seigneur pose cette question, où trouverons-nous du pain ? Où achèterons-nous des pains pour leur donner à manger ? Il leur pose cette question aussi afin de nous enseigner sur l'ordre que nous devons suivre dans l'intelligence, et spécialement dans l'ordre que doit suivre l'intelligence des pasteurs, spécialement des pasteurs, et ensuite de tous ceux qui tiennent lieu des pasteurs ou qui sont pasteurs à leur niveau. Il y a les pasteurs par excellence que sont les évêques, ensuite il y a les pasteurs par participation que sont les prêtres, mais n'oublions pas aussi que les pères de famille sont des pasteurs. Ils sont des pasteurs comme les pasteurs. Ils sont simplement des pasteurs dans l'état laïque, et les autres sont pasteurs dans l'état religieux, dans l'état clérical, plus précisément. Où achèterons-nous des pains ? Notre Seigneur leur enseigne donc trois choses. Premièrement, à prêcher et à guérir comme lui. Et c'est le ministère spécifique des pasteurs des âmes. Ils doivent prêcher la doctrine et ils doivent guérir les âmes au moyen des sacrements appropriés. Ils doivent ressusciter les morts par le baptême. Ils doivent encore guérir les blessés à mort par le sacrement de pénitence, ils doivent fortifier ceux qui sont enfants, qui ont été enfants jusque-là, par le sacrement de confirmation, etc., etc. Ils doivent donc prêcher et guérir. Ensuite, les pasteurs doivent sustenter, c'est-à-dire qu'ils doivent récompenser, c'est-à-dire ils doivent nourrir, c'est-à-dire récompenser la persévérance de ceux qui sont, nous dit un autre évangile, venus de loin. Certains sont venus de loin pour m'écouter. Ceux-là doivent être récompensés. Alors, il ne s'agit pas dans l'Église de distribuer des récompenses comme on en distribue dans la sphère temporelle. Il s'agit de les sustenter, c'est-à-dire de donner aux fidèles une nourriture substantielle qui corresponde à l'intensité du désir de connaître la doctrine et de s'en nourrir. C'est dire si les ecclésiastiques ne sont pas simplement les suppléants des militants qui pérorent, qui inventent, qui récupèrent, qui recyclent, qui pontifient, qui décident, etc. Et les prêtres ne sont pas, les clercs ne sont pas là pour faire un peu comme eux, non. Déjà, les premiers doivent se taire, parce que s'ils parlent, ils sortent de l'État, donc ils s'excommunient eux-mêmes, d'une certaine manière, en tout cas, ils pêchent gravement. Et les clercs, les pasteurs de l'Église, doivent distribuer la nourriture, les sacrements et la doctrine, donc, d'une manière qui soit particulière à leur état. Aujourd'hui, chez les traditionalistes, les clercs ne sont que des suppléants, des gens qui sont constamment en train de douter de ce qu'ils sont, et ils ont raison, parce qu'ils ne sont rien. En réalité, ils doutent constamment, ils interrogent les autres, ils interrogent leurs ouailles pour savoir exactement ce qu'ils sont. Ce qui est incombe, si on voyait des parents demander à leurs enfants s'ils font bien de s'estimer avoir un certain devoir vis-à-vis d'eux, on se dirait, on marche sur la tête, on est chez des gauchistes. Transposez-le dans la sphère traditionnaliste, vous êtes simplement chez des traditionnalistes. Donc, voyez-vous, mes très chers frères, les clercs sont missionnés par l'Église, sont missionnés par Dieu, par le Christ lui-même, pour enseigner, c'est-à-dire nourrir les âmes, et pour nourrir l'âme rationnelle, et pour nourrir l'esprit, ou l'âme prise dans son sens le plus noble, par les sacrements. Maintenant, la troisième chose qu'enseigne aussi notre Seigneur au pasteur, c'est d'évaluer les ressources. Notre Seigneur, ayant déjà habitué ses apôtres à nourrir les pauvres, il leur dit « Où achèterons-nous des pains pour leur donner à manger ?» Et il se trouve que certains commentateurs disent que les 200 deniers dont saint Philippe parle, c'était la caisse de la communauté de notre Seigneur. Et donc, il dit, même si nous utilisions tout ce que nous avons, et vous savez que c'est Judas qui tenait qui était le trésorier, même si nous utilisons tout ce que nous avons présentement, ça ne suffirait pas pour qu'à chacun en reçût une miette ou un tout petit peu de pain. Car il y avait beaucoup de monde. Les pasteurs doivent évaluer les ressources afin de voir ce qu'ils peuvent faire. Et, bien entendu, notre Seigneur ne fait pas évaluer les ressources à saint Philippe simplement pour entretenir le suspense. Il lui fait énoncer le fait que, comme à Cana, eh bien, nous n'avons pas de ressources, ou nous n'avons plus de ressources, ou les ressources que nous avons, quand bien même ce serait 200 deniers, ce qui n'est quand même pas une petite somme, 200 deniers ne suffiraient pas. Les ressources des pasteurs ne suffisent souvent pas. Que ce soit dans les familles, que ce soit dans les communautés, etc., bien souvent, nos ressources sont très faibles. Et Dieu nous maintient dans cet état de faiblesse et de pauvreté pour diverses raisons, pour nous mortifier, pour nous sanctifier, pour nous purifier. Mais il y a des moments où nous avons besoin de faire l'état des lieux, et c'est alors que nous nous rendons compte que nous n'avons rien. Et au lieu de dire à saint Philippe, précipitez-vous sur votre smartphone ou ouvrez un compte Tipeee pour que tout le monde puisse participer, etc. Que dit notre Seigneur ? Car il savait ce qu'il allait faire. Il lui fait confesser qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ensuite, saint André, frère de Simon-Pierre, saint Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et il ajoute, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Lorsque, vous vous rappelez, lorsque peu après, les disciples seront dans la barque ou dans une autre tempête, les disciples diront à notre Seigneur, enfin une autre fois, parce que ce n'est pas cette tempête-là, dans une autre fois, notre Seigneur dormait à la proue, et ses disciples l'ont réveillé à cause de la tempête, et lui ont dit, Maître, réveillez-vous, nous ne voyez-vous pas que nous périssons ? Et que leur a dit notre Seigneur ? Il leur a dit, pourquoi avez-vous eu peur, homme de peu de foi ? Donc notre Seigneur n'hésite pas à réprimander le peu de foi de ses disciples. Il n'hésite pas à leur dire, lorsqu'ils n'ont pas réussi, ils n'auront pas réussi à chasser le démon, ce démon, il n'hésite pas à dire, jusqu'à quand serai-je avec vous, génération mauvaise ? Or ici, notre Seigneur ne dit rien. Il ne dit pas « Votre foi est bien petite, ayez confiance en moi », etc. Il accepte que saint Philippe lui dise « Nous n'avons que 200 deniers et ce n'est pas grand-chose pour tous ces gens ». Et il accepte que saint André lui dise « Alors, on pourrait penser que c'est une sorte d'ironie. Il y a bien ici 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Il accepte pourquoi ? Parce que saint Philippe dit quelque chose de rationnel. Il dit, il y a tant de monde que même avec 200 deniers, c'est-à-dire 200 jours de travail, parce que nous savons qu'on gagnait un denier par jour, en tout cas selon la parabole, il dit quelque chose de rationnel et cette chose est vraie. Donc notre Seigneur ne va pas lui dire, mais pourquoi est-ce que vous ne dites pas qu'on a une somme plus grande? S'il disait qu'il a une somme plus grande, il mentirait. Et saint André, lorsqu'il dit « Il y a bien ici 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Notre Seigneur ne dit pas « Ne vous payez pas ma tête, vous savez très bien que c'est trop peu. » Notre Seigneur voit la raison, la vérité rationnelle énoncée par saint Philippe, et il voit l'amorce de foi chez saint André. Saint André n'aurait jamais dit « Il y a bien ici 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» On ne répond pas. C'est insolent quand on n'a pas une idée derrière la tête. Or, notre Seigneur savait ce qu'il allait faire. Il voulait éprouver ses disciples, et il se trouve qu'en les éprouvant, eh bien, si j'ose dire, pour une fois, il a trouvé plus que l'on pouvait s'attendre. Il a trouvé une raison bien faite, et il a trouvé une amorce de foi. Saint André a regardé ce qu'il avait sous la main, 5 pains d'orge et 2 poissons, et il a dit quelque chose de très vrai, que du point de vue rationnel, du point de vue naturel, cela est trop peu. Donc les deux ont fait une constatation réaliste et juste. Saint Philippe, donc, les ressources ne suffisent pas, il faut bien plus. Saint André, il constate les ressources, mais éventuellement pour les disciples, et il les énonce à Dieu. Saint André énonce ses ressources à Dieu, présente à Dieu l'état des lieux, et ne prétend pas que le miracle est un dû. C'est comme s'il disait, si Dieu voulait multiplier ses pains et ses poissons, il le pourrait, mais quant à nous, ceci est trop peu. Que dit notre Seigneur? Il ne dit rien sauf ceci, faites asseoir ces hommes. Donc nous voyons, c'était notre premier point, nous voyons que les disciples ont bien agi en répondant ainsi comme ils l'ont fait à notre Seigneur. Maintenant voyons comment notre Seigneur exauce. Faites-les asseoir. Notre Seigneur, encore une fois, ne leur répond que par un ordre conforme à leur état d'apôtre. Quand notre Seigneur dit « Faites-les asseoir, faites asseoir ces hommes », il fait référence, parce que chaque mot de l'évangile est très important, il fait référence à l'autorité que les disciples avaient ou devaient avoir, peu importe, parce que tout est dans tout, dans l'évangile, devaient avoir ou avaient sur les hommes. Notre Seigneur va faire quelque chose, or les pasteurs doivent faire quelque chose. Ils doivent, pour que notre Seigneur dépasse la nature, il faut que les apôtres, que les pasteurs fassent quelque chose. Ils doivent ordonner aux fidèles de s'asseoir. C'est pour ça que dans le psaume, il est écrit « Asseyez-vous avant de vous lever ». Ça a l'air une sorte de truisme évident, une lapalissade, et pourtant c'est une chose très importante. Notre Seigneur, il est absolument certain, n'exauce pas ceux qui trépignent. Il n'exauce pas ceux qui sont debout dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans la stabilité. Faites asseoir ces hommes, c'est-à-dire, disent les commentaires, installez-les dans leur état, faites-les se positionner dans la session, dans leur état, selon l'ordre. Et s'ils vous obéissent, alors je ferai moi quelque chose que vous ne pouvez pas faire et que rationnellement et naturellement vous savez incapable, c'est-à-dire les nourrir. L'obéissance au pasteur est nécessaire pour obtenir la bénédiction divine, parce qu'elle ne vient pas par elle-même des pasteurs, mais du Christ qui est le grand pasteur et l'évêque de nos âmes. Donc il y a là quelque chose de très important. Voyez-vous, dans le devoir des pasteurs, mettre les choses dans l'ordre. Alors, vous allez dire, oui, donc, qu'est-ce que vous dites? Il faut obéir aux pasteurs légitimes. Bien entendu, oui, bien sûr, mais à tous les pasteurs légitimes. Les parents doivent obéir à leurs enfants. Les enfants, on n'est pas chez les traditionnalistes. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Les épouses doivent obéir à leurs époux, les époux doivent, au nom de leur famille, obéir aux prêtres, les prêtres doivent obéir aux évêques, bien sûr, et les évêques, bien sûr, au pape. Donc, voyez-vous, et le pape au Christ, évidemment, on presse sans doute de le rappeler, un pape qui n'est, qui ne, qui n'obéirait pas au Christ ne serait pas véritable, ne serait pas un pape du tout. Donc, c'est une chose évidente. Donc, voyez-vous, mes très chers frères, il est important, pour que Dieu fasse un miracle, que nous soyons dans la cession, dans notre état. C'est-à-dire que nous ne soyons pas en train de trépigner, que nous ne soyons pas en train de douter, ce n'est pas que nous ne soyons pas en train de piétiner. Vous allez dire, c'est un détail auquel vous accordez une très grande importance. Mais c'est quand même le verrou du miracle. Imaginez que les apôtres soient allés dans la foule et il leur ait dit, notre Seigneur dit, il faut vous asseoir, asseyez-vous, asseyez-vous. Et les gens, des fois les gens désobéissent. Si les hommes, les femmes et les enfants dans le désert avaient désobéi, rien ne se serait passé. Et notre Seigneur serait parti. Mais ce n'est pas ainsi qu'il voulait que les choses se passent. Écoutez l'immense sollicitude de notre Seigneur. N'oubliez pas que dans l'Évangile, il n'y a, dans l'Écriture sainte, il n'y a aucune chose qui soit, aucun trait de lettre qui soit non nécessaire. Faites asseoir ces hommes. Et l'Évangile continue. Or, il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Alors, vous allez dire, c'est de l'herbe pour que les gens s'asseyent dessus, comme sur des coussins. Effectivement, mais on peut voir ça comme ça, mais les commentateurs, il faut toujours suivre les commentateurs nous disent, cette herbe est là pour symboliser, pour enseigner quelque chose en amont. C'est-à-dire que si Dieu fait pousser de l'herbe pour les bêtes, alors il donnera ce dont ils ont besoin à ses enfants. Donc cette herbe était là pour que les gens s'asseyent dessus, mais il se trouve que cette herbe était là aussi pour leur attester que si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, à tel point que les fleurs sont plus belles que le plus beau vêtement de Salomon, a fortiori prendra-t-il soin de vous, gens de peu de foi, dira-t-il dans le serment sur la montagne. Il y avait beaucoup d'herbes, c'est la sollicitude de Dieu, nous l'avons dit, qui fait pousser l'herbe pour les bêtes. Ainsi prendra-t-il soin de ses enfants, mes très chers frères. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Et dans un autre évangile, on dit 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Donc on peut compter au moins le double, ou peut-être le triple. Il y avait là 5000 hommes. 5000 hommes qui s'asseyent sur la parole des apôtres. 5000 hommes qui se mettent dans une position où ils vont pouvoir être bénis par Dieu. Encore une fois, rappelons-nous, ils ne pourraient pas avoir été bénis s'ils n'avaient pas obéi aux apôtres. L'immensité du besoin, alors mettons-nous du point de vue des pasteurs, encore une fois que ce soit les pasteurs dans le domaine clérical ou laïque, l'immensité du besoin leur apparaît de façon encore plus grande que jusqu'à présent, personne ne parlait de faire manger la foule. Maintenant, ils ont fait asseoir la foule comme pour le repas, mais le repas n'est toujours pas là. Donc, encore, si j'ose m'exprimer en des termes modernes, notre Seigneur met une seconde pression sur ses apôtres, dans le sens où maintenant, ils ont laissé entendre à la foule qu'ils allaient les nourrir, mais ils n'ont toujours rien. L'immensité du besoin, constatée par les pasteurs, non sans une certaine appréhension, mais il ne faut pas que ça nuise à la foi, l'immensité du besoin est à la hauteur de la toute-puissance divine. Mais il faut obéir. Il faut être fidèle dans son état. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, selon son dessein pour nous. Il y a deux aspects au dessein de Dieu pour nous. Il y a l'aspect qui est connu. Et alors, on doit désirer ce qui est son dessein pour nous, et on doit aussi le désirer pour notre sanctification. C'est-à-dire, on doit, une fois qu'on a reconnu l'état dans lequel nous sommes, il faut le pratiquer avec joie, avec honnêteté, avec zèle, pour l'amour de Dieu. Et il y a aussi un aspect inconnu dans le dessein de Dieu pour nous, et nous devons alors prier pour que Dieu nous épargne des choses qui sont au-dessus, des épreuves qui sont au-dessus de nos forces, selon sa promesse, et il faut aussi accepter par avance toute épreuve de sa main pour notre pénitence et notre sanctification. Écoutez la suite. Donc, vous voyez, tout le monde est dans l'ordre, mais il n'y a encore rien. Notre Seigneur prit alors les pains, et ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons. D'où avait-il pris ces pains et ces poissons? Sinon de ce jeune garçon dont parle saint André, et qui avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Donc, ces ressources insuffisantes, énoncées objectivement par les apôtres, notre Seigneur a fait un miracle pour les démultiplier. Voyez-vous, mes très chers frères, ces pains ne viennent pas de nulle part. Ils viennent du peu qui était en leur possession et qui avait été mentionné par saint André. Notre Seigneur accepte la confiance de notre impuissance, voyant qu'il n'y avait pas de négligence, lorsqu'il voit qu'il n'y a pas de négligence de notre part. Si nous lui disons, Seigneur, nous avons très peu, Seigneur, avec tout ce que nous avons, nous ne pouvons rien, ou nous ne pouvons pas grand-chose, mais vous pouvez tout, alors notre Seigneur fait un miracle. Si les apôtres avaient été négligents, s'il avait vu les 5 pains d'orge et les 2 poissons, ayant vu les 5 pains d'orge et les 2 poissons, saint André avait dit « nous n'avons rien », ce qui, d'une certaine manière, est faux. S'il n'avait pas fait, si j'ose m'exprimer ainsi, mais vous comprendrez bien, mes très chers frères, s'il n'avait pas fait ce qui était en leur pouvoir, c'est-à-dire pas grand-chose, mais quand même quelque chose, notre Seigneur n'aurait pas travaillé, si j'ose dire, il n'aurait pas multiplié ce pas grand-chose. Faisons de notre mieux, et Dieu multipliera ce que nous faisons bien. Asseyons-nous par obéissance, et Dieu nous nourrira. Nous ne disons pas ici « aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais, sous un certain rapport, il y a dans cette formule qui vient des Fables de La Fontaine, quelque chose qui est, disons, d'une sagesse humaine, et c'est pour ça que ce n'est pas vraiment une maxime chrétienne, il ne faut pas l'utiliser, mais sous un certain rapport, comme il n'y a pas d'erreur absolue, d'une certaine manière, ce n'est pas totalement faux. Faites mention ce que vous êtes capable de faire à Dieu, et lui-même augmentera vos forces. Faites mention de votre impuissance et de votre bonne volonté, et Dieu augmentera votre bonne volonté et votre force. Il est dit les pains et de même les poissons. C'est-à-dire que notre Seigneur utilise ce que la Providence nous a déjà donné et dont nous ne pouvons par nous-mêmes pas tirer plus que ce que permet la nature. C'est pour ça qu'un commentateur dit cette phrase tout à fait magnifique que nous devons prendre avec foi dans la mesure où nous nous asseyons à l'ordre des pasteurs légitimes, car ce n'est pas ici un commandement pour adressé à n'importe qui pour tenter la Providence. Tout dépérit entre les mains de l'homme, mais tout se multiplie entre les mains du Fils de Dieu. Le peu que nous avons se détruit. Les 5 pains d'orge et les 2 poissons seraient fait un tout petit repas pour tous ces apôtres, mais en les donnant à Dieu, il les multiplie. Notre Seigneur, que fait-il pour multiplier les pains et les poissons? Il est écrit « Et ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis. » Toute prière, mes très chers frères, c'est une évidence, ne produit pas forcément un miracle visible. Mais tout miracle ne se produit que par la prière et la prière habituelle. Si je ne suis pas habitué à prier, si je ne suis pas habitué à invoquer Dieu, si je ne suis pas habitué à lui faire état de mes besoins, si je ne suis pas habitué à lui faire aussi, à lui offrir le spectacle de ma bonne volonté à l'œuvre, avec ce que j'ai sous la main, alors il n'y aura pas de miracle. Mais si, mes très chers frères, nous faisons ce que nous pouvons faire, et si nous reconnaissons que nous sommes dans une grande impuissance pour faire parfaitement ce que nous devons faire, alors notre Seigneur, voyant que nous sommes dans les bonnes dispositions, exaucera notre prière. Et que se passe-t-il? Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulaient. Nous anticipons un petit peu notre troisième point pour parler de la manière dont il faut se comporter une fois qu'on a été exaucé. Encore une fois, dans la vie chrétienne, ce n'est pas l'exaucement qui est la partie la plus difficile. La partie la plus difficile, ce n'est pas de recevoir la parole de Dieu. La partie la plus difficile, ce n'est pas d'écouter la doctrine de l'Église. C'est de la retenir, de la laisser germer dans son cœur et de porter des fruits. Le plus difficile, ce n'est pas de demander à Dieu des miracles, car il en fait. Il en fait, nous sommes tous témoins dans notre vie que des miracles que Dieu a pu faire pour nous. Maintenant, il se trouve qu'il y a le moment où l'on est dans un besoin d'exaucement, et donc que l'on sollicite le miracle, de la bonne façon que j'ai exposé. Il y a le miracle, et ensuite il y a l'après-miracle. Et nous devons comprendre que la qualité de notre demande détermine ce que nous ferons après avoir obtenu l'exaucement. Il ne faut jamais oublier, lorsque l'on demande un miracle dans notre vie, et nous pouvons le demander sous certaines conditions, c'est-à-dire nous voulons nourrir, je suis un pasteur, je veux nourrir plus de 5000 hommes avec leurs enfants, leurs femmes, etc. Seigneur, je n'ai que 5 pains et 2 poissons, que faire ? Mais une fois qu'ils ont été rassasiés, mes très chers frères, que faire ? Eh bien, nous allons le voir. Autant qu'ils en voulaient, là est le piège. Là est le piège. Tout est instructif dans cette histoire. Autant qu'ils en voulaient. Là est le piège tendu par la concupiscence. La générosité de Dieu prend en compte nos besoins qui sont réels. C'est pour ça que notre Seigneur dit à ses disciples, « Dieu, votre Père qui est dans le ciel sait que vous avez besoin de ces choses. Le manger, le boire, le vêtir et tout ce qui va, avec, toutes les nécessités de la vie. Notre Père sait ce dont nous avons besoin et il nous le donnera généreusement. » Maintenant, il se trouve, mes très chers frères, que sans l'esprit de pénitence et sans l'esprit de reconnaissance, nous ne pouvons qu'abuser des grâces. Nous demandons un miracle, mais préparons-nous à gérer, comme on dit aujourd'hui, à avoir une bonne attitude vis-à-vis du miracle reçu. Attention, mes très chers frères, à la jouissance temporelle. Je demande quelque chose à Dieu et sous un certain rapport, cette chose m'apportera relativement plus de confort. Et c'est légitime, le fait d'avoir un toit, d'avoir un vêtement pour se réchauffer et d'avoir de la nourriture, c'est un réconfort. Sans cela, l'homme est dans un état de, même pas de pauvreté, mais de misère. Mais attention à l'enfoncement, l'ensevelissement dans la jouissance temporelle. Si nous sommes heureux, si nous avons du confort, si nous avons même de la jouissance, que nos cœurs se lèvent toujours vers Dieu pour lui rendre grâce au moment de la jouissance. Préparons-nous, mes très chers frères, à être exaucés. Mortifions notre appétit de jouissance temporelle. Mortifions aussi, c'est la deuxième chose que nous devons faire en prévision de l'exaucement, mortifions aussi, méfions-nous de l'accaparement. L'accaparement par l'amour propre. Cet exaucement de Dieu m'a mis dans une situation que j'aime tellement que je m'identifie à elle et que je souffrirais horriblement, peut-être même jusqu'à apostasier, si cela m'était ôté. Attention à l'accaparement par l'amour propre. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin, non pas pour que nous disions que c'est à nous, mais pour en user aussi longtemps que nous en avons besoin. S'il y a eu un miracle pour la veuve que connaissait Élie et qui a vu cette petite fiole d'huile se démultiplier énormément, s'il y a eu un miracle pour la veuve de Sarepta avec Élisée qui a vu sa petite fiole d'huile et sa petite réserve de farine se démultiplier jusqu'à la fin de la famine et de la sécheresse, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'accaparement. Elles en ont fait usage très exactement selon la volonté de Dieu énoncée par le prophète. Attention à la jouissance temporelle, attention à l'accaparement par l'amour propre, attention aussi, mes très chers frères, et quelque chose de beaucoup plus subtil et qui pourrait arriver en plein et même beaucoup plus fort à la personne, au chrétien qui aurait surmonté les deux premières tentations, les deux premiers pièges, attention à l'orgueil d'avoir été les instruments de Dieu, d'avoir été le point de départ du miracle. Mettez-vous à la place de Saint André. Ah, c'est quand même moi qui ai dit qu'il y avait 5 pains et 2 poissons. Voyez-vous, mes très chers frères, faisons très attention. Bien sûr que Dieu utilise toujours, ou en tout cas presque toujours, le peu que nous avons, le peu que nous faisons, le peu qu'il nous a déjà donné, il l'utilise pour le démultiplier. Mais attention à l'orgueil d'avoir été les instruments de Dieu. Une œuvre commence, j'étais là au début. Vous étiez là au début par la grâce de Dieu. Mais est-ce vous qui avez fait multiplier cette œuvre? Est-ce vous qui, en rendant grâce, avez distribué à 5000 hommes, et avec leurs femmes et leurs enfants, 5 pains et 2 poissons? Non. Alors il n'y a, quand bien même nous sommes les instruments de Dieu, quand bien même nous sommes les serviteurs de Dieu, ce que nous sommes toujours des serviteurs inutiles. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais je me le dis à moi-même, en souvenir de cette parole, en écho de cette parole de notre Seigneur, quand vous aurez fait tout ce qu'on vous aura dit de faire, donc tout ce que vous aurez fait d'après votre devoir, etc., etc., dites encore, nous sommes des serviteurs inutiles. Bienheureux les cœurs purs, bienheureux les pauvres en esprit, mes très chers frères, si, pour le dire en un mot et d'une façon assez catégorique, si nous ne pratiquons pas les béatitudes avant le miracle, il est fort probable que nous tomberons dans l'un ou l'autre piège, des pièges que nous avons mentionnés après le miracle. Alors, ça ne veut pas dire que du coup, il ne faut rien faire parce que je ne suis pas parfait, je n'ai pas le cœur pur, je n'ai encore totalement pur, je ne suis pas assez pauvre en esprit, etc. Donc du coup, je ne demande rien. Non, parce que par ailleurs, il y a 5000 hommes devant les apôtres qu'il faut nourrir. Il y a des familles dont on doit prendre soin. Il y a toutes sortes de choses qui doivent être gérées, nourries, etc. Donc voyez-vous, mes très chers frères, pendant que nous demandons le miracle, efforçons-nous d'obéir à Dieu, efforçons-nous de purifier nos intentions, efforçons-nous de vivre dès maintenant avec les 5 petits pains et les 2 poissons dans un esprit de pénitence et de reconnaissance. Le problème, c'est pas d'obtenir de Dieu un miracle, le problème c'est de persévérer après avoir obtenu un miracle. Le miracle est la chose la plus facile à nous accorder pour Dieu. Pour lui, ce n'est rien, il est tout-puissant. Mais le miracle d'un cœur bien disposé avant et après le miracle, voilà quelque chose qui est beaucoup plus grand et que nous devons demander pour nous-mêmes, à grand cri, à Dieu. Et nous terminons en voyant la manière dont notre Seigneur veut que nous nous comportions après l'obtention du miracle. Lorsqu'ils furent rassasiés, notre Seigneur dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui sont restés pour qu'ils ne se perdent pas. Tout miracle de la Providence doit aboutir à la gratitude, à la reconnaissance. Tout est sacré, tout doit être traité comme tel. Tout est sacré de ce que Dieu nous donne, tout doit être traité comme tel. Ce que Dieu nous aura donné, fût-ce des pains, en abondance, et des poissons en abondance, il n'aura pas donné un festin de roi, il aura donné ce qui est nécessaire pour sustenter la vie. Mes très chers frères, tout ce que Dieu nous donne est sacré. Nous ne devons pas en mésuser. On n'en use pas de façon profane. On n'use pas de façon profane des biens prodigués par Dieu sans s'attirer la colère d'indignation de Dieu. Seigneur, donnez-nous un toit pour abriter notre famille. Il nous donne un toit, et maintenant, nous sommes très heureux de notre maison, nous jouons au châtelain, ou autre chose, bien entendu. Voyez-vous, je prendrai même un exemple tiré de la vie de saint Thomas d'Aquin, par exemple. Un jour, lui et ses confrères, ils venaient vers Paris, et puis ils surplombaient, un petit peu la ville, et un de ses frères lui dit « Mais quelle ville magnifique, vous devriez, mon frère, on devrait vous faire vous-même le roi, et on devrait vous faire roi de cette ville, ou quelque chose comme ça. » Et qu'a dit saint Thomas? Il a dit « Je préférerais plutôt avoir un exemplaire du commentaire de saint Chrysostome sur je ne sais plus quelle épître, etc. » Voyez-vous, imaginez que un religieux, j'ai parlé ici tout à l'heure d'un père de famille ou d'une personne qui demandait un toit, imaginez qu'un religieux prie de tout son cœur pour obtenir le livre dont il a besoin. Un commentaire de saint Chrysostome, très rare, Imaginez qu'il l'obtienne. Et imaginez qu'il soit tellement épris de la beauté de la doctrine qui y est contenue, que lorsque se présente l'heure d'aller à l'office, eh bien il continue la lecture et il saute l'office. Il pêche gravement, voyez-vous mes très chers frères. Il faut demander ce qui est juste, s'attendre à l'obtenir, mais aussi se préparer à continuer à être fidèle après. Ce commentaire que ce grand religieux avait demandé de ses vœux à Dieu, imaginez qu'il l'ait reçu et qu'il ait méprisé ou négligé ses devoirs habituels de religieux, est-ce qu'il n'aurait pas excité la colère de Dieu sur lui, l'indignation de Dieu ? Est-ce pour cela que je vous ai donné ce que votre cœur désirait ? C'est pour cela que je vous ai donné ce dont vous avez besoin pour accomplir votre grand œuvre de commentaire ? Je vous donne quelque chose, et parce que vous étiez attaché à cette chose-là, alors ce n'est pas l'histoire de saint Thomas évidemment, hein, mais parce que vous étiez attaché à cette chose-là, vous avez profané le bien que ma providence vous avait accordé, et ce qui est d'autant plus triste et misérable, c'est que cela aura été accordé à notre foi, de telle sorte que nous commettions une sorte de double crime, un crime contre Dieu, en profanant ce qu'il nous a donné, et un crime contre notre propre foi qui était un don de Dieu, en n'agissant pas dans la continuité de notre foi. Il y a quelque chose de terrible à la fin de cet évangile, quelque chose qui doit nous laisser perplexes et instruits. Ces hommes, ayant donc vu le miracle qu'avait fait notre Seigneur, disaient « Celui-là est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et ce faisant, ils disaient vrai. Moïse avait dit, un prophète plus grand que moi viendrait, etc. Viendra, et c'est notre Seigneur qui est venu, effectivement. Ils ont confessé que les miracles que personne n'avait fait jusque-là de notre Seigneur, à ce point-là, dans cette dimension-là, de notre Seigneur, étaient signes de sa qualité de Christ, de Messie. Et que fait notre Seigneur ? Voyant que les gens étaient enfin informés, réinformés, il leur donna... Non, mais notre Seigneur, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, s'enfuit de nouveau tout seul sur la montagne, en les laissant, si j'ose dire, sans mauvaise blague, en les laissant avec leur ventre rempli de pain et de poissons miraculeux, notre Seigneur se dérobe à eux. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas du Christ, on ne fait pas de Dieu le roi de notre existence comme étant la clé qui nous manque pour être heureux. On fait du Christ, on fait de Dieu le centre de notre existence auquel on sacrifie tout, sachant que chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice fait que nous aurons tout le reste par surcroît. Dieu se dérobe, mes très chers frères, à tous ceux qui veulent le faire servir à leurs intérêts, fût-ce en professant la doctrine orthodoxe. Celui-là est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Il n'est pas parti parce qu'il mentait, parce qu'il se trompait, parce qu'ils étaient hérétiques, mais parce qu'il voulait le faire roi pour pouvoir avoir un tel roi et être dans le bonheur et la félicité temporelle perpétuelle. Quel avertissement, mes très chers frères, quel avertissement pour l'Église, quel châtiment aussi pour ne pas avoir écouté cet avertissement. Le châtiment, nous sommes en plein dedans, nous sommes plutôt dans la vengeance, les prodromes de la vengeance divine. Notre Seigneur s'enfuit, il s'enfuit de nouveau tout seul sur la montagne. Commencé par l'esprit, pour finir par la chair, c'est la pire chose qu'un chrétien puisse faire. Cette expression vient de saint Paul, évidemment, aux Galates. Vous avez commencé par l'esprit, allez-vous donc finir par la chair ? L'unique façon de l'éviter, mes très chers frères, c'est, nous l'avons dit, de chercher d'abord et par-dessus tout, primordialement, le royaume de Dieu et sa justice, de pratiquer sa justice comme des enfants de la Jérusalem céleste. C'est pour cela que nous pouvons prier aujourd'hui cette oraison que l'Église nous donne en ce quatrième dimanche de carême. Ayant mérité par notre conduite l'affliction présente, puissions-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, trouver dans votre grâce allègement et consolation. par Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.